Bonjour.
C'est vrai qu'on a déjà passé de bons moments. Et même si la louange est quelque chose qu'on apporte, on est nourri en même temps. Et plus on donne dans la louange, et plus on reçoit. Merci Seigneur pour ces temps qu'on a pu passer déjà. Je voudrais ce matin aborder un sujet que j'ai sur le cœur depuis assez longtemps. Et puis je vous avouerai que plus les semaines passaient, et plus ça a été compliqué pour moi de le mettre en page. Parce que c'est un sujet qui me semble important, mais qui peut être aussi parfois sujet à interprétation. C'est à la fois la guérison divine et, bien évidemment, on ne peut pas parler de guérison sans parler de maladie, d'origine de la maladie. Et c'est le sujet ce matin que je voudrais aborder avec vous, avec l'éclairage de la parole, bien évidemment. On a tous des cultures différentes, que ce soit au niveau religieux, qu'on vienne de milieux athées ou pas, et parfois, y compris dans le milieu évangélique, l'aspect de la maladie peut être sujet à discussion. Et donc ce matin, je voudrais essayer, au regard de la parole une fois de plus, de voir ce que nous pouvons en tirer. Et c'était pour moi aussi un exercice d'essayer de faire abstraction de peut-être des convictions personnelles que j'ai pu acquérir au fil des années, et d'essayer de m'en dépouiller pour me tenir devant le Seigneur et dire « Seigneur, que nous dit ta parole ?» Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. Alors, avant de parler de guérison, parce que je pense que c'est plus intéressant de parler de guérison que de parler de maladie, mais il faut quand même, je pense, revenir un petit peu à l'origine. Et pour ça, je n'ai pas trouvé mieux que de remonter à la création de l'homme, à la Genèse. Donc, je vous invite à prendre, si vous le souhaitez, la Genèse au chapitre 1er, et au verset 26, le Seigneur avait créé les cieux et la terre, avait créé les animaux, avait fait le ciel, la mer, et ainsi de suite. Et puis, il manquait quelque chose à la création. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et puis si on va un peu plus loin, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, l'histoire de l'homme. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et puis on peut encore continuer un peu plus loin, au chapitre 3, verset 1 au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Et puis je vous propose d'aller voir directement les conséquences de cette désobéissance, toujours au chapitre 3 et au verset 16 à 19. Il dit à la femme, il est question de Dieu qui parle à Ève, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la nature de l'homme au moment de la création. La parole nous dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, et Dieu est immortel. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet. Dieu est immortel. Dieu a créé l'homme pour être et rester en bonne santé. Et une fois de plus, s'il a créé Dieu a créé l'homme à son image, Dieu ne tombe jamais malade. Et il a créé l'homme pour être dans un corps qui n'était pas fait pour la maladie. C'était une œuvre parfaite, c'était la création parfaite. Au chapitre 3, toujours au verset 22, l'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Donc j'insiste sur cet aspect, l'homme était fait pour vivre éternellement. Il ne s'agit pas que d'une vie spirituelle, puisque à la création, il y avait une réelle communion entre l'homme que Dieu avait créé et Dieu lui-même. Donc il n'est pas question ici d'une mort spirituelle, mais bien d'une mort physique. Et l'origine de la maladie est une conséquence directe de la désobéissance et de la séparation d'avec Dieu. Le péché a détruit la relation intime qui existait entre Dieu et sa création, et cette séparation d'avec Dieu impacte l'être entier de la nature humaine, l'esprit, l'âme et le corps. Et au même titre que le péché a eu pour effet la mort spirituelle, c'est-à-dire une rupture de cette relation qui existait entre l'homme et Dieu, le péché a également engendrer la maladie et la mort physique. L'apôtre Paul dira bien plus tard en écrivant aux Romains, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et la nature humaine, depuis ce moment-là, est devenue faillible, notre corps est devenu mortel. Je pense qu'il est important déjà de préciser une chose, même si ça peut parfois heurter notre entendement. Il est important de noter que c'est Dieu qui reste maître de la maladie. C'est une condamnation qui est venue sur l'homme, sur l'humanité, et c'est Dieu qui a instauré la mort, et c'est Dieu qui a instauré la maladie. Et nous entendons parfois, dans certains milieux ou dans certaines prières, la maladie vient du diable. La maladie vient de Dieu à cause de la chute de l'homme et de la désobéissance, à cause du péché qui est entré dans le monde. Exode, au chapitre 4 et au verset 10 à 12, nous parle justement de la main de Dieu sur la maladie et sur l'infirmité. Dieu avait appelé Moïse pour sortir le peuple d'Égypte, et Moïse ne se sentait pas capable. Il avait apparemment un problème d'élocution, et quand l'Éternel lui a dit d'aller voir Pharaon, il s'est dit « comment je vais faire ?» Est-ce qu'il bégayait? Est-ce qu'il avait... On ne sait pas, ce n'est pas précisé. Mais il est dit ceci, Moïse dit à l'Éternel, donc chapitre 4 d'Exode, au verset 10, « Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet et sourd ?» voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel ? Si nous allons un peu plus loin, dans Deutéronome, Dieu a donné au peuple d'Israël des lois et des ordonnances. Et dans Deutéronome, nous avons, en l'occurrence au chapitre 28 et au verset 21 et 22, les malédictions, entre autres, parce qu'il y en avait d'autres, mais qui étaient liées à la désobéissance du peuple d'Israël. Et il nous est dit ceci, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Il est bien question de l'éternel. Au chapitre 28, au verset 35, il nous est dit ceci également. L'éternel te frappera au genou et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et puis à l'inverse, il y avait aussi des bénédictions pour ceux qui s'attachaient à Dieu. Et si nous allons dans Exode au chapitre 15 et au verset 26, je vais laisser un petit peu de temps parce que c'est vrai que moi je les ai écrits sur mes feuilles, mais si vous voulez suivre, et voilà, aujourd'hui il n'y a pas de... Hein, voilà. Mais vous avez une Bible ou vous écoutez, c'est au choix, mais je vous laisse un peu de temps si vous souhaitez le suivre vous-même. Exode chapitre 15 verset 26. Il est question ici du peuple d'Israël qui s'était arrêté dans sa marche vers le pays promis, à Mara, là où les eaux étaient amères et Dieu est intervenu de manière miraculeuse pour adoucir l'eau. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, il nous est dit ceci, « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. » Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Et puis, si nous allons un peu plus loin, toujours dans Exode au chapitre 23 et au verset 23 et 25, Exode chapitre 23 et au verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statues. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà de belles promesses que l'Éternel avait fait à son peuple. Je tiens à préciser une chose, et j'y viendrai dans la suite du message. Nous sommes ici dans le contexte de l'Ancienne Alliance et du peuple d'Israël qui était sous la loi que Dieu leur avait transmise. Les temps ont changé, nous ne sommes plus sous la loi. Mais je crois que c'était important de repréciser le contexte et l'origine de la maladie dans la nature humaine. Je fais aussi une aparté sur une chose qui m'a interpellé. Dans les malédictions qui étaient liées à la désobéissance, nous avons lu ceci, « L'Éternel te frappera » d'ulcère malin dont tu ne pourras guérir, il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et quand vous lisez le livre de Job, mot pour mot, Job a vécu les mêmes choses. Or, il nous est dit dans la parole que Job était un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se détournait du mal. Je pense qu'il est important déjà de bien intégrer que la maladie n'est pas systématiquement quelque chose qui est lié à la désobéissance, au péché. Nous en avons la preuve ici. Et si Job avait vécu à notre époque, peut-être que moi le premier, c'est clair et net, la parole le dit. Je te frapperai d'un ulcère des pieds à la tête, c'est exactement ce qui lui arrive. Il a désobéi, il est dans le péché. Dieu reste souverain et maître des circonstances. Et on le verra, il peut nous amener dans des conditions parfois que nous ne comprenons pas. Ça n'est pas pour autant que nous sommes dans le péché, que nous ne sommes pas dans l'obéissance, parce que c'est lui qui reste maître des temps. Je l'évoquais, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Amen. Amen. Romains au chapitre 5, verset 18. Romains, chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul écrit ceci, et il fait référence au sens d'Adam. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance de Jésus, beaucoup sont rendus justes. Et puis Colossiens chapitre 2 verset 14, l'apôtre Paul dit ceci, il, en parlant de Jésus, a effacé l'acte dont l'ordonnance, les ordonnances pardon, nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. La venue de Jésus sur terre et surtout sa mort sur la croix ont radicalement changé le cours des choses. Et si j'ai évoqué ce qui se passait pour le peuple d'Israël qui était sous l'ancienne alliance et sous la loi, il en est tout autrement. Pour nous, aujourd'hui, l'ancienne alliance comme moyen de salut a été abolie à la croix et Dieu a établi une nouvelle alliance par Christ. On ne peut pas parler de maladie et de guérison sans évoquer un texte que beaucoup connaissent, mais je pense qu'il est important de lire. Ésaïe, au chapitre 53. Le prophète annonce la venue de Jésus. Ésaïe, chapitre 53, verset 1er. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous remarquerez qu'il n'est pas écrit, même si la venue de Jésus a fait tout ça dans les vies de ceux qui l'acceptent, mais ce n'est pas écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes bénis, que nous sommes heureux, que nous sommes riches, que nous sommes dans la paix, que nous sommes dans l'amour. Oui, c'est vrai. Mais il est bien précisé, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le prophète précise, il est blessé pour nos péchés, et ces meurtrissures, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. David dira dans le psaume 103 au verset 2 « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Et alors que le péché a affecté, je le disais tout à l'heure, la stature spirituelle et physique de l'homme, la rédemption que nous avons par la mort de Jésus nous offre la guérison spirituelle par le pardon des péchés et la guérison physique en guérissant les corps malades. Et nous le voyons, quand il est question de la croix, il est toujours question du pardon des péchés et de la guérison. Et l'un ne va pas sans l'autre parce que, comme je l'évoquais, l'être est esprit, âme et corps. Et l'œuvre de rédemption ne s'arrête pas à l'esprit ni à l'âme, mais elle va aussi toucher le corps pour que l'être entier soit régénéré. Le ministère de Jésus sur terre a d'ailleurs été essentiellement, d'une part, l'appel à la repentance et la guérison de toute maladie et de toute infirmité. Alors, j'aimerais apporter une précision, et je l'ai déjà dit, ne faisons pas de confusion entre la nature humaine qui, depuis la chute d'Adam, est assujettie à la maladie, et la maladie qui peut nous atteindre aujourd'hui. J'ai cité l'exemple de Job, mais la doctrine qui voudrait qu'un enfant de Dieu qui marche dans les voies de Dieu, qui est malade, est systématiquement dans une situation de péché, ça n'est absolument pas biblique. même si parfois ça peut être le cas. Ça n'est pas une doctrine biblique que de dire « je suis malade, mon frère est malade, ma sœur est malade, c'est parce qu'il y a une situation de péché ». Nous avons plusieurs exemples dans la Bible, j'en ai retenu deux. Élisée, qui était un homme de Dieu, il nous est dit que Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. L'apôtre Paul lui-même écrit aux Galates qu'il était mis à l'épreuve par sa chair. Là aussi, nous n'avons pas beaucoup de détails, mais nous savons qu'il souffrait dans son corps. Et pour autant, l'apôtre Paul n'était pas dans une situation de péché. Alors avant d'en venir à la guérison, parce que c'est des questions qu'on peut légitimement se poser, pourquoi passons-nous par la maladie? Pourquoi parfois le Seigneur permet la maladie dans nos corps, permet que la souffrance puisse nous atteindre? Alors, tout d'abord, comme je l'ai évoqué, quand le péché est entré dans le monde, la douleur, la peine, les conflits, la mort ont envahi tous les êtres humains. La Bible nous dit aussi que toute la création gémit à cause du péché et soupire dans l'attente des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc la nature humaine est impactée par ce péché d'Adam et d'Ève. Une autre raison qui est évidente, la maladie peut tout simplement être la conséquence directe de nos actions. Si je sors en plein hiver sans être suffisamment couvert et que j'attrape une bronchite, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Ce n'est pas parce que j'ai péché. Alors certains diront c'est peut-être un péché d'orgueil, de que sais-je encore, mais c'est aussi une conséquence directe de mes actes. Si j'ai une alimentation complètement déséquilibrée, que je fais n'importe quoi, et qu'à un moment, le médecin diagnostique du diabète, ben, oui, peut-être qu'à un moment, il faut que j'assume aussi certaines conséquences de mes actes. Il en est de même pour la protection de nos corps. Si je monte dans un arbre en faisant le guignol et que je tombe, je me casse une jambe, ben, c'est la conséquence directe d'une action. La maladie peut être aussi un moyen, et c'est souvent d'ailleurs un moyen que Dieu utilise pour nous attirer à lui ou nous faire revenir à lui. On le voit dans la parole, on l'entend souvent dans des chrétiens qui expliquent comment ils se sont donnés au Seigneur, comment ils ont rencontré l'Évangile, et pour un certain nombre, c'est au travers de la maladie. Parce que dans ces moments-là, merci Seigneur pour la médecine, merci pour les antibiotiques, merci pour toutes ces bonnes choses, mais quand parfois c'est plus grave que ça, quand parfois les traitements n'y font rien, qu'on n'a plus rien pour s'accrocher, alors bien souvent, on crie à Dieu. C'est un appel au secours. Et Dieu permet souvent la maladie pour appeler à lui, que ce soit des personnes qui ne le connaissent pas, que ce soit aussi des enfants de Dieu qui parfois se sont éloignés, dont la foi s'est refroidie. Et cette situation d'éloignement, voire de péché, est aussi un appel de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il frappe aux portes. Certains, c'est d'une manière, par une épreuve, et ça peut être aussi par la maladie. Dieu ne force personne. On entend parfois, s'il y avait un Dieu, alors les gens qui sont athées et qui disent s'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas si. Ben oui, mais tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de Dieu, mais s'il y en avait un, ça ne se passerait pas. Oui, mais de toute façon, moi, quand je le verrai là-haut, je vais lui expliquer. Oui. Et malheureusement, nous l'avons chanté ce matin, tout genou fléchira, on sera le visage contre terre, il n'y aura pas d'explication. Il n'y aura pas d'explication possible. Le temps de la réconciliation, c'est maintenant. Et quand certains disent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de maladies, il n'y aurait pas... Les gens veulent vivre sans Dieu, mais Dieu les laisse libres. Et après, ils se plaignent que la maladie les atteint, que le malheur les atteint, mais tu es libre. Quand nous élevons nos enfants, nous leur expliquons les principes de la vie, nous essayons de les élever dans ce qui nous semble être juste et bon pour eux. Quand ils sont tout petits, qu'ils commencent à marcher, on leur explique qu'il ne faut pas toucher la porte du four parce que ça brûle, qu'il ne faut pas aller près des escaliers parce qu'on... Et puis, une fois qu'ils grandissent, ils font leur choix. Et on ne peut pas leur imposer le choix. Et Dieu est pareil. Il ne s'impose à personne. Il frappe. Il frappe au cœur. Il appelle. Mais il laisse libre. Et ceux qui lèvent le poing en disant « s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas... » Oui, mais ils refusent Dieu dans leur vie. Par contre, ils ne veulent pas assumer parfois les conséquences d'une vie sans Dieu. Et la maladie, une fois de plus, je le dis, est un moyen que Dieu peut utiliser pour attirer à lui, pour montrer tout son amour, pour se manifester dans les vies. Dieu peut utiliser la souffrance. J'avais eu l'occasion d'en parler il y a quelque temps quand j'ai apporté un message sur l'épreuve. Dieu peut utiliser la souffrance pour éprouver notre foi et notre patience. C'est plus facile de dire « j'ai la foi quand tout va bien ». J'ai du travail, j'ai une bonne santé, j'ai un toit, j'ai une petite vie qui... J'ai la foi, Seigneur, je crois en toi. Et puis quand l'épreuve commence à arriver, quand la maladie vient et puis qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'en est-il de notre foi ? Et Dieu nous fait grandir dans la foi aussi à ce moment-là. Et quand Dieu utilise ce moyen de la maladie, je citais le cas de l'apôtre Paul qui était touché dans sa chair. Quand il en parle, ce n'est pas pour se révolter ou se plaindre ou gémir. Il est conscient que cette souffrance qu'il a est bonne pour elle parce que, il le dit, c'est pour ne pas, à son niveau, s'enorgueillir. Parce que je pense que chez lui, il savait certainement que sa nature était ainsi faite et que par la maladie, ça le laissait dans l'humilité. Et parfois, dans nos vies, on peut avoir une maladie qui est là, puis on ne comprend pas forcément. C'est un chemin par lequel le Seigneur peut nous faire passer pour nous apprendre la patience, pour faire grandir notre foi, affermir notre foi et en sortir fortifié. Parce que la guérison est sujette à faire grandir la foi que nous avons en Dieu. Et puis, Dieu peut permettre aussi la maladie dans notre vie pour que nous servions de témoignage à ceux qui nous entourent. Je pense que plusieurs ici pourraient témoigner de cela. J'ai un témoignage que peut-être certains connaissent de Linda, qui est ma femme. Quand elle était enceinte de Marie, donc notre dernière, elle était atteinte de nausées et de vomissements. Elle ne pouvait garder absolument aucun repas. Et puis, elle a donc été consultée le médecin, qui lui a recommandé de faire des radios, et il s'est avéré qu'elle avait des calculs à la vésicule biliaire, et que c'est ça qui lui engendrait ces problèmes de digestion. Le médecin l'a fortement encouragée, parce que de toute façon, elle ne pouvait garder absolument aucun repas, donc aller voir un chirurgien pour se faire opérer. Donc rendez-vous était pris avec le chirurgien, la date était fixée. Elle avait vu l'anesthésiste. Et puis dans ces moments-là, on ne comprend pas forcément pourquoi. On savait qu'il y avait aussi un risque pour le bébé de par l'anesthésie. Et un dimanche matin, lors d'un culte, elle a reçu vraiment la conviction qu'elle ne se ferait pas opérer à ce moment-là, alors que tout était planifié. Et elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Elle n'a pas eu la conviction qu'elle serait guérie. Elle a eu la conviction qu'elle ne se ferait pas opérer avant que la petite soit née. Et donc, elle est retournée voir le chirurgien en disant, écoutez, voilà, je ne vais pas me faire opérer. Et, chose surprenante, le chirurgien a dit, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, j'annule tout, j'annule la chambre, enfin, vous occupez de rien, je m'occupe de tout. Elle a pu reprendre des repas normalement. Le moment de l'accouchement est arrivé. Et puis, une fois après avoir accouché, elle était prise de nouveau de ses vomissements. Et alors qu'elle était encore à la maternité, donc les médecins l'ont renvoyée refaire une opération. Et puis, la radiologue ne comprenait pas, elle cherchait partout et elle disait « je ne comprends pas, je vois pas de calcul ». Et puis, à un moment, elle s'arrête. Elle dit ceci, « c'est surprenant, ils sont là, dans un coin, comme si quelqu'un les avait rongés ». Elle a eu du mal à les retrouver. Et donc, elle s'est fait opérer. Et là encore, quand je dis que la maladie peut servir de témoignage, elle était donc en service de maternité, elle aurait dû normalement partir en service de médecine, et le service de la maternité a dit « Non, non, vous allez garder votre chambre ici, vous vous faites opérer et vous revenez en maternité, vous serez bien ici. » Bon, ce qui est un petit peu surprenant, parce qu'en règle générale, les services sont bien organisés et il s'est avéré que donc, la convalescence était un peu plus longue qu'un accouchement normal. Et dans le service, les gens ont été interpellés. Et chaque fois qu'une fille, une infirmière, une sage-femme avait une pause, Elles venaient dans la chambre, parler, se confier de leurs problèmes. Et c'était un temps de témoignage qui ne serait jamais arrivé si le Seigneur n'avait pas conduit les choses comme ça. Alors, effectivement, quand on a l'issue des choses, c'est plus facile. On est conforté. On est dans la joie. On comprend pourquoi le Seigneur nous a amenés ici. Quand on est au commencement des choses, on se pose beaucoup de questions. Et je crois qu'il est important, dans ces moments-là, de s'en remettre à Dieu, de lui faire confiance et de le laisser agir. J'aimerais qu'on en vienne maintenant au plus important, la guérison. Je crois qu'on n'a pas meilleur exemple que l'exemple de Jésus. On pourrait en citer beaucoup, on pourrait lire tous les évangiles, ce serait un peu long ce matin. J'ai choisi, moi, de prendre ce passage de Matthieu au chapitre 8, au verset 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous noterez, je fais une parenthèse qui est importante, Jésus chassait les démons, mais il guérissait les maladies. Matthieu chapitre 10, verset 1er, il nous est dit ceci, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » C'est une erreur que de vouloir chasser la maladie. La maladie n'est pas une possession. Et il est bien question ici, et Jésus lui-même guérissait les malades et chassait les esprits impurs, chassait les démons. Ce sont deux choses bien différentes. Et quand nous prions pour la guérison, nous nous adressons à Dieu, nous ne nous adressons pas à la maladie, nous ne chassons pas la maladie, nous ne chassons pas un démon, nous prions simplement Dieu qu'il guérisse la maladie et nous prions comme toute prière par le nom de Jésus. Là encore, c'est valable pour la maladie, c'est valable pour toute prière. Quand Jésus a dit ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et la prière par le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. C'est une prière de la foi. Par le nom de Jésus, ce n'est pas une formule que je vais répéter inlassablement comme si Dieu était sourd et qu'il ne m'entendait pas. Et plus je vais répéter par le nom de Jésus, et plus j'ai des chances que la chose arrive. Non, par le nom de Jésus, c'est tout simplement la prière de la foi dans l'œuvre de Jésus, dans ce qu'il a accompli. Je vais prendre une image qui n'est peut-être pas le reflet exact, mais imaginons qu'à un instant, je souhaite avoir une audience auprès d'une personnalité, ouais, le Premier ministre, le Président de la République, Daniel Teller, si j'essaye d'appeler le cabinet de l'Élysée, je pense que ça ne va pas leur dire grand-chose. Imaginons que j'appelle en disant « Oui, je voudrais avoir le Président, j'appelle de la part de M. Hérault, de la part de M. Valls, de la part… » Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'appeler quelqu'un comme ça. En général, les portes s'ouvrent. Et j'aimerais que vous compreniez l'image. Quand je prie Dieu par le nom de Jésus, c'est je me recommande de Jésus, je me recommande de son œuvre à la croix. Et ça n'est pas une formule magique. C'est parce que Jésus m'a donné cette possibilité de m'adresser à Dieu que je peux le faire. Amen. Avant de monter au ciel, Jésus nous a laissé un commandement. Marc au chapitre 16, versets 15 à 18, il leur dit à ses disciples, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ces signes donnés par Jésus sont là pour confirmer l'authenticité du message de l'Évangile. La guérison, tout comme le pardon des péchés, s'obtient par la foi en Jésus-Christ, c'est un cadeau. Nous n'avons pas à le mériter. Et autant nous acceptons plus facilement le pardon des péchés par la foi, autant il est parfois plus difficile d'accepter la guérison, parce que c'est plus matérialisé. Les péchés, c'est aussi l'absence de relation avec Dieu, c'est quelque chose qui est plus abstrait. Alors oui, il peut y avoir des chaînes, des péchés qui sont, des passions qui sont dans les vies. Bien évidemment que Dieu peut en délivrer, mais bien souvent, nous sommes dans la foi quand nous avons l'assurance du pardon des péchés, et puis nous avons moins l'assurance de la guérison. Et nous avons eu l'occasion de lire l'œuvre de Jésus à la croix, pardonne les péchés, guérit toute maladie, toute infirmité. Alors ne nous laissons pas entraîner par des pensées qui viennent nous dire que nous ne sommes pas assez bien, que si nous sommes malades, c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela. Oui, rentrons en nous-mêmes pour nous examiner, pour savoir si par ce moyen, peut-être que Dieu nous appelle à lui. Mais venons par la foi déposer toute notre vie pour que le Seigneur puisse œuvrer complètement dans les corps et guérir les corps malades. Nous aurons dans quelques instants un temps de prière et d'imposition des mains pour les malades. Je voudrais vous apporter encore ce témoignage. Nous avons une nièce, Mathilde, qui, quand elle avait 2-3 ans, a été atteinte de maladies, de symptômes. Elle avait la tête qui commençait à tomber, les bras qui tombaient. Elle n'arrivait plus à tenir debout. Et elle était hospitalisée à l'époque, au CHU de Nancy. Et puis, après plusieurs jours d'examen, les médecins ne comprenaient pas trop, il a été diagnostiqué une maladie, un syndrome de Guillain-Barré. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est une inflammation des nerfs qui survient subitement. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est un mécanisme d'agression par les anticorps. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises parce que je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain. Et c'est une maladie qui peut entraîner des troubles respiratoires et malheureusement parfois des conséquences dramatiques. Et c'était un sujet forcément d'inquiétude. Et mon frère et ma belle-sœur, qui sont croyants, ont appelé l'Église à prier, ont appelé la famille à prier, et nous avons intercédé pour Mathilde. Et je me souviens d'une chose, comme si c'était hier, alors qu'il y a bientôt une vingtaine d'années, un petit peu moins. Je me souviens de cette phrase que nous disait mon frère. Il disait, les spécialistes ont dit, si elle s'en sort, elle aura certainement des séquelles irréversibles. Elle aura du retard dans la scolarité, elle aura des conséquences. Et puis, nous avons continué à persévérer dans la prière. Au bout de quelques jours, quelques courtes semaines, le Seigneur est intervenu de manière miraculeuse, entièrement guérie. Elle est sortie de l'hôpital, elle est rentrée en scolarité à la maternelle. Et j'aime les clins d'œil du Seigneur, alors que les spécialistes disaient que les choses seraient certainement avec des conséquences graves. Elle est passée de la maternelle directement au CE1 parce qu'elle savait lire, elle savait écrire, elle savait compter. Elle a passé son bac avec un an d'avance et elle est aujourd'hui à l'université et le Seigneur a béni, a guéri complètement. Je voudrais vous apporter ce dernier témoignage que certains connaissent peut-être aussi de Linda alors que nous étions à l'époque fiancés et depuis son adolescence, elle avait des crises très douloureuse dans les articulations, avec des poussées de fièvre qui la rendaient complètement immobile. Là aussi, le diagnostic a été long, et puis les médecins ont diagnostiqué une polyarthrite lupique, maladie qui est évolutive, qui est extrêmement douloureuse, et dont les conséquences à terme sont le fauteuil roulant, l'immobilisation, avec des douleurs énormes. Le seul traitement qu'il puisse y avoir, c'est éventuellement de soulager les douleurs. Et à cette époque-là, alors que nous étions fiancés, forcément, c'est un sujet d'inquiétude. Et nous avons fait le choix de placer notre confiance dans le Seigneur. Et sa foi, elle l'a exercée tout simplement dans une réunion comme celle-ci, où il était parlé de la guérison, et où le pasteur, à la fin, invitait ceux qui étaient malades à s'approcher. Elle peut vous le dire elle-même, si vous souhaitez avoir plus d'explications. Elle est avec les enfants ce matin, mais vous pourrez aller la voir à la fin du culte. Elle s'est avancée, même pas pour demander la guérison, elle s'est demandée pour demander la foi, tout simplement, de croire. Elle a été instantanément guérie. Elle a eu cette conviction dans son cœur que Dieu l'a touchée. Et quand elle est rentrée, elle a dit à ses parents, « Papa, maman, je suis guérie, c'est plus la peine de prendre de traitement. » Et même en tant que chrétien, on est dur à croire, parfois. On est dur à croire. Et même les parents ont dit, « T'es sûr que c'est bien sage ?» Elle avait cette ferme assurance. Elle a dit, « Non, le Seigneur m'a guérie. » Et elle n'a jamais plus eu aucun symptôme. Des examens ont été refaits, il n'y avait plus aucune trace de la maladie. Le Seigneur était intervenu de manière miraculeuse dans sa vie et beaucoup, ce matin, pourraient témoigner ici de ce que Dieu a fait. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et alors que l'équipe de louange va nous conduire dans quelques chants, j'aimerais qu'on puisse donner l'occasion à plusieurs ce matin de goûter la guérison. C'est une question de grâce ou de désobéissance. La guérison, comme le pardon des péchés, c'est la foi de venir à ce Jésus qui guérit. Nous ne sommes pas contre la médecine. J'ai cité ces cas d'opération, ces cas de traitement. Et merci Seigneur pour le bien qui peut être fait par les traitements, par les médicaments. Mais nous croyons que nous avons un Dieu qui guérit, qui délivre de toute infirmité. Et je vais demander aux responsables de s'approcher. Et vous qui souhaitez la prière, alors venez simplement par la foi, nous allons, ça n'est pas une question de méthode, mais je pense qu'il serait bien qu'on se mette les responsables par deux. Le Seigneur a envoyé ses disciples par deux, et puis la parole nous dit que si deux s'accordent pour demander une chose, alors elle leur sera accordée. Et je souligne aussi ce point, quand le Seigneur envoyait les disciples aller par tout le monde, et il y a une chose qui m'a là aussi interpellé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et vous savez qu'à ce moment-là, ceux qui auront cru, ce ne sont pas ceux qui entendent. C'est ceux qui annoncent l'Évangile. Parce qu'on peut annoncer l'Évangile et ne pas y croire. Et la parole dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors ne venez pas chercher la bénédiction d'un homme, ne courez pas après l'un ou après l'autre, venez au pied de la croix. C'est lui qui guérit toute infirmité. Amen. Approchez-vous maintenant et puis nous allons prier pour vous simplement.